Vous apercevez qu'il y a très peu de passages, finalement, qui en parlent. Si on essaye de résumer, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a bien sûr sa grossesse, hein, par le biais du Saint-Esprit, hein, c'est un des grands passages. Ensuite, il y a sa rencontre avec Élisabeth, hein, sa cousine. Et là, il va y avoir le cantique de Marie, où là, ça prend une large part, dans l'évangile de Luc. Et puis, il y a la naissance de Jésus en elle-même, juste après. Et puis ensuite, il y a quelques allusions à elle, ici ou là, souvent avec ses fils, avec les frères de Jésus. Et finalement, il y a ses noces de Cana. Et puis on la voit aussi réapparaître à la crucifixion. Et puis c'est pratiquement tout. Il y a un petit verset où elle est mentionnée au début du livre des Actes. Et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autres mentions de Marie. Et les noces de Cana, eh bien, c'est une de ses interventions, hein, où elle agit dans la parole de Dieu. D'abord, c'est important de dire que Marie, au commencement, était une femme certainement pieuse, une femme qui aimait l'Éternel, elle aimait Dieu profondément. Hein. Et ça, c'est quelque chose de certain, parce que Dieu ne pouvait pas choisir quelqu'un pour enfanter son fils, hein, qui ne soit pas quelqu'un qui aime l'Éternel. Et donc, elle aimait l'Éternel. Et c'était une femme certainement remarquable dans sa personne. Et jamais on ne va dénigrer la personne de Marie. On croit aujourd'hui qu'elle est dans la sainte présence de Dieu et qu'elle attend, eh bien, la résurrection. Comme tous ceux qui sont dans la présence de Dieu, ils attendent le retour de Jésus et la résurrection. Maintenant, est-ce qu'elle était sans péché pour autant ? Alors, vous savez qu'il y a une doctrine qui dit que Marie aurait été l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. Et donc, elle aurait été conçue sans péché pour pouvoir enfanter Jésus qui était sans péché. Maintenant, quand vous y réfléchissez, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'il aurait fallu que la mère de Marie soit elle aussi conçue sans péché, pour qu'elle puisse enfanter une personne immaculée. Et puis, on peut remonter comme ça de génération en génération, finalement. Et toute la génération aurait dû être immaculée pour pouvoir finalement enfanter Jésus sans péché. Qu'est-ce que dit la Bible ? En fait, elle dit plutôt le contraire. Si vous prenez l'ensemble des versets de la Bible, elle dit plutôt le contraire. Pourquoi ? Puisque Marie dit elle-même, donc on ne va pas le prendre, mais c'est en Luc 1, 48, elle dit que Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et dans le même passage, elle se réjouit en Dieu son sauveur. Et donc, voilà, ça montre qu'elle avait besoin, dans son âme, elle sentait qu'elle avait besoin d'un sauveur. Et donc, c'était une femme, comme toutes les autres femmes, une femme pécheresse, hein, qui a besoin d'un sauveur. Et rien dans la Bible ne permet de dire que que Marie était immaculée ou sans péché. Et vous savez, le miracle, c'est pas que Dieu a préservé Marie pour pouvoir enfanter Jésus sans péché, mais c'est que Dieu a préservé Jésus dans le sein de Marie, qui était une femme comme les autres, une femme qui était pécheresse. C'est ça le vrai miracle. Et alors, dans notre passage, là, il y a une interaction entre Marie et Jésus qui est nouvelle. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois où on voit Jésus adulte qui va reprendre en quelque sorte sa mère. Parce que quand on lit le texte, c'est ce qui se passe. Notre texte parle donc de ce mariage où il y a Jésus, il y a les disciples, et puis Marie qui est là. Et au verset 3, nous lisons « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Alors, vous pouvez imaginer ce que ça signifie à l'époque de ne plus avoir de vin pour des noces, pour un mariage. C'est une catastrophe, une vraie catastrophe, quelque chose d'impensable. Si on prend le vin, vous prenez le vin dans toutes les Écritures, et vous voyez qu'il y a deux manières, hein, il est présenté de deux manières. Il y a d'abord l'aspect qui est présenté de quelque chose qui est dangereux, l'alcool, comme étant quelque chose de dangereux. Par exemple, on va lire dans les Proverbes, « Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme une vipère. » Dans notre version, c'est basilic parfois, mais c'est une vipère, piquer comme une vipère. Et quand vous regardez, il y a plein de versets où on est mis en garde. Attention à l'alcool, attention, eh bien c'est dangereux. Néanmoins, Dieu ne condamne pas l'excès, Dieu ne condamne pas la consommation, mais il condamne l'excès. C'est ça. Dès qu'on dépasse et on commence à aller au-delà, Dieu dit non, là c'est stop. Et dans d'autres passages, on va trouver des versets qui vont plutôt aller en faveur de quelque chose de positif. Par exemple, on va lire « Ce qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, c'est le vin. » Il parle du vin. Voilà, ça réjouit le cœur de l'homme. Et là, dans ce passage des noces de Cana, c'était ça, c'était un moment de réjouissance, voilà, c'était une fête, on était heureux, c'était pas question de se saouler à tomber par terre, mais voilà, il y avait de la joie, il y avait de la réjouissance, et imaginez, plus de vin au milieu du repas, quoi. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer? Les invités vont se dire, mais bon, la fête est gâchée un peu, la fête est gâchée. Alors Marie, qui est une femme entreprenante, en tout cas là, elle semble quelqu'un de caractère. Elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. En fait, il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Qu'est-ce que ça nous montre? Peut-être que Marie, elle se disait, peut-être que Jésus, mon fils, peut faire quelque chose. Bon, elle avait certainement pas oublié ce qu'elle avait vécu, avec cette naissance miraculeuse, on ne peut pas oublier ce genre de choses. Elle savait que Jésus était particulier. Elle avait probablement dû voir la différence entre Jésus, son fils, et puis ses frères. Le comportement de Jésus, ses frères. Enfin, elle savait, quelque part au fond d'elle-même, qui était Jésus. Et elle se dit, mais voilà, lui peut peut-être faire quelque chose, il peut intervenir. Mais alors, vous avez la réponse de Jésus qui fait réfléchir. Verset 4. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est possible de prendre cette phrase comme étant quelque chose de positif? « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? » Est-ce que ça peut être positif? Et non. Jésus n'est pas ici en train de dire à sa mère, « c'est vrai, c'est bien, tu as raison de m'en parler. » Il faut que j'intervienne, il faut que je fasse quelque chose. C'est pas du tout ça, pas du tout ça. Non, il est en train de la reprendre, et la suite nous prouve que c'est un reproche, puisqu'il lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Autrement dit, tu es en train de me pousser là, mais c'est pas le moment. C'est pas encore le moment. Elle était en train de pousser son fils à faire quelque chose, mais Jésus dit non, ce n'est pas encore le moment de me révéler, comme étant le Fils de Dieu. Et dans cette parole, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Jésus est en train de marquer, de souligner la différence qu'il y a entre lui, Jésus-Christ, Fils de Dieu, descendu du ciel, et toi, une femme issue de la terre. C'est, regarde, il y a une grande différence entre moi et toi. Et si Jésus, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, et même, je le crois, en tant qu'adulte, était toujours respectueux vis-à-vis de ses parents d'abord, et puis après on pense que Marie était veuve, respectueux de sa mère. Ici, Marie entre dans un domaine qui ne la concerne pas. Ce n'est pas elle qui peut imposer de faire quelque chose au Fils de Dieu, non. Il dépend du Père éternel, et c'est le Père qui décide de toute chose, et c'était à lui de décider si oui ou non, il devait faire quelque chose. Et malheureusement, Marie a été d'une certaine manière divinisée. On en a fait comme une déesse. C'est terrible, Bien que la Bible n'aille vraiment pas dans ce sens. Aujourd'hui, Marie est vue comme bien plus qu'une simple femme choisie pour porter Jésus. Elle est un peu comme une divinité, puisqu'elle pourrait recevoir des milliers de prières en même temps et les exaucer ou les porter à son fils ou au père. Non. On ne trouve pas cela dans la Bible, ça n'existe pas nulle part. Et notre texte de ce matin nous montre qu'il y a une différence entre Dieu le Fils d'une part et puis cette femme qui était bénie, certes bénie par Dieu d'enfanter Jésus-Christ, mais sans aucun pouvoir et sans aucun privilège au-dessus de nous, nous, de simples hommes. Un autre texte qui est significatif et que vous devriez tous connaître par cœur, je vous exhorte à retenir ce passage, hein, c'est quand une femme va s'approcher de Jésus et commencer à exalter Marie. Donc c'est Luc 11, verset 27. Luc 11, verset 27. Retenez ce passage. Il est écrit ici, « Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » C'est extraordinaire, c'est beau ici. Cette femme est en train d'exalter Marie, elle l'élève, hein, elle la porte sur les cimes, hein, quelque part. Hein. Qu'elle est heureuse parmi toutes les femmes, la mère de Jésus, quel bonheur! On ne dirait pas qu'elle l'adore ici, mais voilà, il y a quand même une exaltation, une élévation qui est certaine. Comme aujourd'hui, ben des millions de personnes vénèrent quelque part Marie. Hein. Ils préfèrent s'adresser à Marie que s'adresser à Dieu ou à Jésus-Christ. C'est, pour eux, c'est voilà, Marie est sensible, Marie est accessible. Beaucoup de femmes se disent, Marie est une femme, elle est comme moi, elle me comprend, c'est plus facile. Et on ne s'adresse pas du tout à Dieu, on ne s'adresse pas du tout à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus répond à cette femme qui est venue élever Marie? Regardez verset 28. « Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'est ça l'important en fait. Hein? Jésus n'a pas loué cette femme. Il ne lui a pas dit par exemple, « Ah mais c'est vrai, tu as raison, ma mère est bénie. » Ah non, alors pas du tout, au contraire. Non, que fait-il? Il va redresser ce qui ne va pas, et la preuve, c'est dans ce petit mot « plutôt », qui est dans le grec, et qui signifie « au contraire ». Au contraire. Non, ce que tu fais, ce n'est pas droit. Au contraire, qu'est-ce que tu dois faire? Écouter la parole de Dieu, et la garder dans ton cœur, dans ton âme. C'est ça qui compte vraiment. C'est ça qui est vraiment important. Et quand l'homme voudrait exalter Marie, voudrait la prier peut-être, eh bien, il doit réfléchir à ses paroles. Qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, mais garde la parole, écoute-la et serre-la dans ton cœur, plutôt que de vouloir exalter Marie. Et alors, eh bien, on voit le caractère de Marie. Hein? Parce que Jésus lui adresse un reproche. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle se tourne vers les serviteurs et dit, faites ce qu'il vous dira. Et non, mais non. Et ça ne l'ébranle pas du tout. Hein? Ça ne l'ébranle pas du tout. Et Jésus va choisir d'intervenir. Il n'était pas obligé. Il est Dieu. Il est Dieu. Mais il a choisi d'agir. Et en fait, on en a la raison à la fin du passage. Hein? On le lira tout à l'heure. Et si on aime Marie, il y en a qui aiment Marie, hein. Si c'est quelqu'un qui compte pour nous, eh bien on devrait faire ce qu'elle nous conseille, elle conseille aux serviteurs. Qu'est-ce qu'elle dit? Faites ce qu'il vous dira, faites ce que Jésus dira. Et en fait c'est ça qu'on doit faire, on doit obéir à Jésus, c'est ça qui est véritablement important. Et ce n'est pas de développer sa propre piété, sa propre manière de faire les choses, hein, d'adorer, d'avoir sa religion, mais de faire toujours ce que Jésus nous dit. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous dit, mais garde la parole, serre-la dans ton cœur, hein, c'est ça qui est vraiment important. Me soumettre à ce que la Bible enseigne, c'est ça qui est important. Voilà pour Marie. Et puis ensuite, eh bien, il y a ce miracle, ce premier miracle que Jésus va faire, et on va lire les versets 6 et 7. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Donc, vous avez 6 vases destinés aux purifications des Juifs. Et donc, c'était des vases de la pierre, donc certainement assez, avec une ouverture assez large, hein, et qui permettait aux Juifs de tremper les mains, de se mettre de l'eau comme ça, de se nettoyer des impuretés, et on se lavait dedans, et toute cette eau retombait, souillée à l'intérieur, hein, et probablement on versait cette eau plus tard, et puis on la remplissait de nouveau, et puis ça servait à une nouvelle purification. Et donc, ce n'étaient pas des vases très propres à la base. Pas des vases où on a envie de boire à l'intérieur. Hein. C'est clair. Il y a deux images que l'on peut voir dans ces vases, que j'aimerais qu'on voit ce matin. La première, c'est que Jésus nous montre qu'il va y avoir une rupture entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Les Juifs devaient se purifier sous l'ancienne alliance avant de s'approcher du Seigneur. Mais Jésus va transformer cette eau qu'ils vont verser dedans en vin. Le vin, c'est une image de son sang, hein, dans les Écritures. Et bientôt, il n'allait plus avoir besoin de se purifier. Pourquoi ? Parce que le sang de Jésus purifie de tout péché. Plus besoin de cette purification comme les Juifs faisaient. Donc il y a une rupture maintenant qui se prépare. Une rupture entre l'ancienne alliance qui est passée et maintenant on va passer dans la nouvelle alliance en son sang où Jésus-Christ va nous donner la purification. Donc il y a une image ici. Ensuite, il y a une autre image que l'on peut prendre de ces vases de pierre. Quand vous lisez la Bible, vous regardez toutes les épîtres, vous regardez même dans l'Ancien Testament, vous voyez que souvent, Dieu compare l'homme à des vases. Nous sommes comparés à des vases. Par exemple, l'apôtre Paul va dire, je vous le lis, Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et donc Dieu a versé dans le cœur de ses enfants une grande puissance, le Saint-Esprit. De l'extérieur, on ne paye pas de mine, on pourrait dire. On est, ces vases, des vases de terre, comme Paul dit. Dans un autre passage, ailleurs, il va parler, il va dire que nous pouvons être des vases d'un usage vil, des vases d'un usage d'honneur. Et là encore, il fait référence aux chrétiens. Voilà, nous sommes des vases. Et dans notre texte de ce matin, on peut dire aussi que nous sommes comme ces vases destinés à la purification. Pourquoi ? Parce que c'était des vases impurs à l'origine, des vases souillés à l'origine. Et c'est notre cas, c'est notre cas. Mais Dieu est capable de faire un miracle avec nous. Et il le fait lorsqu'il verse son esprit. Et là, l'eau est peut-être une image du Saint-Esprit. Et c'est intéressant de voir que lorsque Jésus va dire aux serviteurs « Versez de l'eau dans ces vases », il les remplit jusqu'au bord, plein. Il fallait qu'ils soient pleins. Pourquoi ? Pour qu'un miracle se produise. Comment ne pas penser à ce passage d'Éphésiens 5, verset 18 ? Éphésiens 5, et verset 18. On lit ici, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Soyez remplis de l'Esprit. Pourquoi ? Parce que quand nous sommes remplis de l'Esprit, c'est là où il y a un miracle qui peut se produire dans nos vies. C'est là où il y a un miracle. Et Dieu nous appelle à nous laisser remplir de son esprit. Ce n'est pas que nous pouvons nous remplir du Saint-Esprit. On n'a pas la possibilité de le faire par nous-mêmes. C'est impossible. Par nos propres forces, ce n'est pas possible. D'ailleurs, je lisais que c'était intéressant parce que dans le grec, c'est à la voix passive. C'est-à-dire qu'on subit l'action. Et c'est Dieu qui nous remplit. C'est à lui de nous remplir. Simplement, nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous décidons de nous abandonner, de lui céder notre vie, de nous consacrer à sa personne, de dire « Seigneur, à toi ma vie entière, je te l'offre, Remplis-moi dans cette journée. Remplis-moi. Comme dit le cantique, prends mon cœur et prends mon âme. Voilà, je suis tout ouvert à toi. Remplis-moi. Et donc, c'est l'œuvre de Dieu de nous remplir. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique de ne pas faire obstacle au Saint-Esprit. Parce que c'est ça, en fait. Hein ? Dieu ne peut pas nous remplir si on fait obstacle. Et comment ? Eh bien, qu'est-ce qui fait obstacle à l'Esprit de Dieu et qui fait que Dieu ne peut pas nous remplir ? Ben d'abord, c'est le péché. Principalement, le péché. C'est quand je désobéis. C'est quand je suis indépendant. J'ai envie de faire ce que j'ai envie. Hein ? Et laisse-moi un peu tranquille, Seigneur. On ne veut pas se donner, on ne veut pas s'offrir, on ne veut pas obéir à ce que Dieu demande. Et là, on fait obstacle à l'Esprit de Dieu. Mais, si nous confessons nos péchés, alors il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et si on se consacre et on dit « Seigneur, pardon, et voilà, j'aurais pas dû, et remplis-moi, je veux vivre pour toi, vraiment, et t'obéir en tout », alors eh bien, il est libre de nous remplir. Et il le fera. Je crois aussi que les soucis, les inquiétudes, les tourments, eh bien, ça peut faire obstacle, quelque part, au fait que Dieu nous remplisse. Parfois, par nos inquiétudes, eh bien, on n'est plus ouvert au Seigneur, abandonné, on saisit les choses, hein, on veut tenir parce qu'on est inquiet, parce qu'on pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose, voilà, et on veut tenir les choses. On n'a plus les yeux fixés sur lui et notre cœur commence à tourner en rond dans nos pensées et on est comme fermé. C'est pas pour rien que le Seigneur a dit « Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais cette paix de Dieu, d'où elle vient ? Elle vient du Saint-Esprit. Elle vient de la plénitude du Saint-Esprit. Et donc, quand je me décharge et je lui dis, Seigneur, je ne veux pas porter ces fardeaux, je ne veux pas m'inquiéter, je m'abandonne à toi, remplis-moi et donne-moi ta paix. Il me remplit du Saint-Esprit et il me donne cette paix qui surpasse toute intelligence. Et mon cœur et mes pensées sont en Jésus-Christ. Et donc, il ne faut pas créer des obstacles qui empêchent Dieu de nous remplir par la désobéissance, le péché, par mes inquiétudes et les fardeaux que je veux continuer à porter. Paul dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et Dieu ne veut pas qu'un chrétien soit rempli de vin, mais il veut au contraire qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Parfois, il y a une expression, on dit « il est sous l'emprise de l'alcool ». Voilà, il a trop bu, il a dépassé la limite, hein. Trop d'alcool dans le sang, il se met à faire des choses qui sont déraisonnables, des blagues qui ne volent pas très haut. Il est donc sous l'emprise de l'alcool. Et ce n'est pas anodin que Paul compare le fait d'être sous l'emprise du vin au fait d'être rempli du Saint-Esprit. Ce que Paul nous suggère ici, c'est que nous, chrétiens, il faut que nous soyons sous l'emprise du Saint-Esprit, pas du vin. Sous l'emprise du Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est être sous l'emprise du Saint-Esprit. Mais attention, il y a une différence, c'est quelque chose de volontaire. Dieu ne nous forcera jamais à l'être. Il ne nous forcera jamais à être rempli du Saint-Esprit. Impossible. Il ne nous impose pas l'action bénie du Saint-Esprit. Mais c'est une décision personnelle. C'est un désir du cœur. C'est une acceptation de dire, Seigneur, je veux que tu me gouvernes. Je veux t'obéir. Je veux que tu sois libre en moi. Si bien que c'est plus moi qui suis aux commandes, mais je laisse Dieu être aux commandes de ma vie. Alors, d'un point de vue pratique, qu'est-ce que ça signifie ? Très concrètement, si l'Esprit me pousse à abandonner quelque chose, je l'abandonne. Par exemple, si il me pousse à cesser de faire quelque chose qui lui déplaît, j'obéis. Et vous savez, c'est en le faisant qu'on le sait. On le sait. On commence à faire quelque chose et on sent où Dieu veut pas que je fasse ça. Et là, il y a une décision à prendre. Qu'est-ce que je fais? Oh, ben, j'ai envie quand même. Hein. Ou je dis, oh, stop. Pardon, Seigneur. Je renonce, je vais pas le faire. Voilà, c'est bête, hein. Mais c'est tout simple. Hein. Tout simple. Et s'il me montre, au contraire, que je devrais faire quelque chose, parce que parfois, c'est le contraire. Il nous montre une direction, hein. Et bien là encore, si je veux ne pas faire un obstacle, j'obéis et je me laisse faire et je vais dans la direction qu'il me montre. Et de nouveau, c'est tout de suite. Et il nous suggère parfois dans la pensée, il va nous dire, c'est le bon moment pour prier. Ou c'est le bon moment pour lire ta Bible. Vas-y, après tu ne pourras plus, hein. Terminé. La journée va se remplir, tu ne pourras plus. Mais là, vas-y, saisis l'occasion. Ou bien, vas-y, parle à cette personne. Ou bien, non, ne fais pas ça, mais fais plutôt ça. Vous savez, des fois, il y a des choix à faire, qu'est-ce que je fais? Et voilà, le Seigneur nous le montre. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est la décision qui va faire qu'on laisse Dieu continuer à nous remplir ou on crée un obstacle parce qu'on n'obéit pas. Et hop, ça bloque. Et là, ben, on n'est plus rempli. On n'est plus rempli du Saint-Esprit. Alors, eh bien, pour être rempli, il faut vouloir le suivre en tout et partout. Être sensible à sa voix et voilà, et obéir. Ça commence le matin. Vous savez, quand on est dans une bonne disposition le matin, avec un désir d'obéir pour le reste de la journée, eh bien, après, on est sensible. Et dans la journée, eh bien, on va vivre des choses. Et là, on va prendre les bonnes décisions parce qu'on a pris la décision le matin. On lui a demandé. On a la volonté, on veut le faire. Eh bien, il va nous aider tout au long de la journée. Un jour, il y a un évangéliste américain qui s'appelait Moody, peut-être vous connaissez pour certains. Il était en train d'avoir une campagne d'évangélisation en Angleterre. Et il y a une église qui se disait, on pourrait l'inviter, c'est quelqu'un de formidable, ça va être bien. Et à ce moment-là, il y avait un ancien qui s'est mis à protester dans l'église. Et il a dit, mais pourquoi on a besoin de M. Moody? Il est mal éduqué, il est sans expérience, hein, voilà, des critiques. Hein. Et puis il dit, pour qui il se prend? Est-ce qu'il a le monopole du Saint-Esprit? Et là, il y a un jeune pasteur qui s'est levé et qui a dit, non, Moody n'a pas le monopole du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a le monopole de Moody. Et c'est ça qui fait toute la différence, en fait. Hein. Il a le monopole de Moody. Il a tout de lui. Alors, eh bien, on veut qu'il vienne. On veut qu'il vienne. Et c'est ça l'important. C'est lui laisser le monopole de notre personne. Dire, Seigneur, vraiment, tu as tout. Tout. Je te donne tout. Tout mon être. Quand on a cette attitude, alors, ça devient une réalité. Il nous remplit. Et ça ne veut pas dire qu'on le ressent. Hein. Vous savez, parfois on a l'impression qu'il faudrait que ce soit le ciel dans mon âme tout le temps. Mais non, pas forcément. Hein. Parfois on ne ressent rien, absolument rien. Mais il y a l'attitude de cœur. Il y a un désir d'obéir. Il y a une consécration. Et la réalité, c'est là. Ce qui fait qu'au moment où Dieu a besoin de nous, il est capable, il peut remplir notre bouche, remplir notre cœur, nous donner d'avoir la bonne réaction, la bonne attitude. Voilà, il me remplit. Et il va le faire encore et encore chaque jour. C'est d'ailleurs le sens de l'expression « soyez remplis de l'Esprit » dans le texte grec, il y a l'idée de quelque chose qui est continuel, encore et encore et encore. C'est pas que Dieu nous remplit une fois, puis il dit « maintenant, vas-y ». Non. Il ne cesse pas de déverser en nous le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui se répète encore et encore. En fait, je me consacre encore et encore, j'obéis encore et encore, il me remplit encore et encore. Et c'est là où Dieu peut bénir autour de nous. C'est là où on va devenir une bénédiction pour les autres. Et c'est là, on peut dire, où il y a des miracles qui se produisent. Il y a un miracle qui se produit. Regardez Jean 2, on va lire la suite. Versets 8 à 10. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Et là, le Seigneur fait un grand miracle. Il a permis que d'un vase impur mais rempli d'eau sorte un vin exceptionnel. Et une grande bénédiction pour tous ceux qui étaient là aux noces. Même le vin était meilleur que... Ben, il a donné ce qu'il avait de meilleur, l'époux, ou la famille de l'époux. Mais là, ben, c'était vraiment encore meilleur. Et pour reprendre notre image, on peut dire que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous pensons, mais la condition, c'est tout lui donner. Tout lui donner. C'est se consacrer. C'est offrir sa vie afin qu'il ait la liberté de nous remplir. Et je dirais que peu importe d'où nous venons, peu importe notre passé, peu importe nos défauts, nos chutes, peu importe même nos péchés d'aujourd'hui, nos faiblesses, ou les traces qu'ont laissé le passé dans nos vies, peu importe, ce qui importe, c'est que maintenant, je lui donne tout. Je me consacre. Je lui offre ma vie et mon cœur aujourd'hui, demain, après-demain, et encore, et encore. Et là, eh bien, il est libre, libre de nous remplir de plus en plus et de faire de nous une bénédiction pour les autres. Alors, on imagine, l'époux devait être vraiment surpris de ce qui se passait. Tout se passe bien, c'est la fête, on profite et tout, il est tout heureux. Et on vient lui dire, il n'y a plus de vin. Alors là, là, il devient livide. Il sait que voilà, on a mis tout ce qu'on pouvait, toutes les économies. Et puis quelques minutes plus tard, quelqu'un vient lui dire, mais alors toi, t'as gardé un vin excellent pour nous à la fin. Il devait être décomposé, et puis d'un seul coup, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ce couple, tout juste marié, était reconnaissant au Seigneur, et certainement pour ce qu'il avait fait pour eux. Et parfois, eh bien, on se dit que Dieu a fait beaucoup pour nous. Il a fait beaucoup. Il est merveilleux déjà avec nous. Mais avec le Seigneur, on peut dire le meilleur est à venir. Voilà, c'est toujours demain, c'est encore meilleur. Il peut faire bien plus que tout ce qu'il a déjà fait pour nous, par sa grâce. Verset 11. « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. » Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et là, vous avez la raison pour laquelle Jésus a fait ce miracle. Il ne l'a pas fait parce que sa mère lui a dit d'autorité, ils n'ont plus de vin. Faites ce qu'il vous dira au serviteur. Non, il l'a fait parce que bien, son père l'a poussé en disant, mais c'est le moment, fais-le pour cette raison-là. Alors il l'a fait. Il voulut manifester sa gloire afin que ses disciples croient en lui. Et là, ça va être le début du ministère de notre Seigneur. Et tous les disciples vont être témoins de choses encore plus grandes. Quand vous voyez tous les miracles et tous ceux qui ne sont même pas comptés, de choses encore plus belles, d'actes de bonté, d'actes de grâce qui vont être renouvelés envers tout le peuple. Alors Dieu peut faire encore des miracles. Si on lui laisse la place pour les faire. Ça ne sera pas changer de l'eau en vin, mais ça va être faire briller la lumière du sein des ténèbres en faisant resplendir la connaissance de Dieu dans nos cœurs, parce qu'on le laisse nous remplir de sa personne. On va avoir un moment de prière, je pense.